merci à toute la communauté pour avoir organisé cette vraiment très belle journée. Merci aussi à mon collègue Alexandre de m'avoir vraiment très bien mis la table. Et finalement, merci à tout le monde qui vient de m'écouter. C'est vraiment une conférence bonbon qui me replonge directement en enfance. C'est probablement une des premières sagas que j'ai vraiment adoré. Donc, ça fait plaisir de vous parler de son dernier opus. Je brise tout le pote, j'ai adoré le film. C'est probablement le plus beau cadeau de Noël que la vie pouvait me faire à ce point-là. Donc, ça va vraiment me faire plaisir de vous dire pourquoi. Et si éventuellement, il y a des personnes qui l'ont détesté, ça va me faire plaisir de jaser avec. J'ai plusieurs amis qui ne l'ont pas du tout aimé. Et ça fait de très belles conversations. Donc, la sortie de la super production Star Wars épisode 8 de la Jedi de Rian Johnson constituait l'un des événements culturels les plus attendus de l'année 2017. L'attente a été en outre dynamisée par une seconde bande-annonce particulièrement révélatrice et je me souviens que j'avais regretté de l'avoir d'abord regardé avant de voir le film. Outre les questions laissées en suspense à la fin du 7e épisode de Force Awakens, nous pouvions nous interroger sur la position trouble du maître Jedi Luke Skywalker et sur l'éventuel basculement de la protagoniste Rey aux côtés de l'antagoniste du 7e épisode et ancien Jedi Kylo Ren. À la sortie du film, la réception a été très divisée, majoritairement positive de la part de la presse, obtenant par exemple 85% sur Metacritic, exceptionnellement mitigée de la part du public et des fans. Presque autant l'ont adoré que détesté. Tandis que Mathieu Ligoyette le considère comme le meilleur Star Wars avec A New Hope et Empire Strikes Back pour des raisons entièrement différentes, pour des raisons parfois même assez radicales, en publiant sa critique sur Panorama Cinéma, qui est vraiment excellente. Plusieurs fans expriment sur YouTube notamment comment l'épisode a ruiné la saga. Une pétition est immédiatement lancée après la sortie du film afin que celui-ci soit retiré du canon. Je vous lis la pétition qui expose plusieurs griefs des fans. L'épisode 8 est une parodie. Il détruit complètement l'héritage de Luke Skywalker et des Jedi. Il détruit les raisons les plus importantes pour lesquelles nous, les fans, nous aimons Star Wars. Cela peut être corrigé. Tout comme vous avez effacé 30 ans d'histoire, une référence à l'univers étendu de Star Wars, nous vous demandons d'en effacer une de plus, celle des derniers Jedi. Effacez-le du canon. Sortez l'épisode 9 et refaites l'épisode 8 proprement pour rétablir l'héritage, l'intégrité et le personnage de Luke Skywalker. Plus de 100 000 personnes ont par ailleurs appuyé cette pétition. Il en existe de nombreuses autres, notamment une que je trouvais particulièrement drôle, proposant que Porns Up soit renommé Porks Up les May the Force de chaque année. Mon analyse va s'intéresser à la composition narrative de The Last Jedi. Pour concevoir son film, le réalisateur a dû négocier avec la tradition de la saga, qui, nous l'avons vu, a de nombreux fans, aux postures certes variées, et les formules disneyennes. Voici quelques exemples de ces dernières. L'humour bien affiché, les créatures mignonnes dont on peut questionner l'intelligence, contribuant à les rendre encore plus mignonnes, le recyclage de grandes figures mythiques, les finales édifiantes, etc. Johnson a su intégrer assez naturellement à son film les éléments propres à l'univers Disney, qui ne sont d'ailleurs pas foncièrement éloignés de Star Wars. Dès l'épisode 6, le retour du Jedi, les Ewoks font leur apparition. Ce sont des créatures mignonnes, touchantes et également surpuissantes. Il faut savoir que l'armure des Stormtroopers, les petits bonhommes blancs, est supposée résister à tout impact, excepté le tir direct d'un blaster, et que les Ewoks vont les neutraliser en leur lançant des roches. C'est d'autant plus problématique que ce sont eux qui permettent de remporter la bataille décisive de la trilogie originale contre l'Empire. Par contre, vis-à-vis de The Last Jedi, si l'implication des Ewoks dans la bataille d'Endor montre déjà une certaine signification de la franchise et rappelle aux spectateurs de ne pas trop prendre au sérieux chaque action diégétique, alors c'est davantage les films en entier qui comptent. Les Porgs, si je les aime beaucoup, semblent passablement inutiles à l'intrigue des films. Les Ewoks possèdent leur propre civilisation et la scène où Nanta meurt, image en bas au centre, est particulièrement marquante malgré peut-être à cause de sa simplicité. C'est une scène qui doit durer 3 secondes dans le film. Le Sage Critique, dans son évaluation sur YouTube, s'amuse de la prolifération quelque peu abusive des porgs, rebaptisant le film A Porg's Tale. et j'ai fait cette diapo pour Megan en particulier, même si la critique adornienne de la marchandisation d'éventuelles peluches peut difficilement être contestée, les plaintes du pauvre Chewbacca face à l'invasion et à la nidification des Porgs à bord du Faucon Millennium, l'une des plus anciennes icônes de la saga, semble devoir représenter la réaction des fans maugréants vis-à-vis des changements dans celle-ci. Chewie ne peut pas se résoudre à en manger un, tandis que les autres l'observent avec leur air si mignon, étant ainsi amené à réfléchir à la portée de ses actions. Car toute résistance n'est-elle pas futile face aux Porgs? Cette parenthèse sur les Porgs achevée, revenons au sixième épisode, qui repose sur un jeu de reprise et des mesures, tout en s'ouvrant à un public plus large, dans une logique de super-production contemporaine. Une nouvelle étoile de la mort est conçue secrètement. Le maître de Darth Vader se dévoile comme étant encore plus terrible que son disciple, avec cette répicule en début de film de Darth Vader. L'empereur n'est pas aussi indulgent que moi. Darth Vader étant reconnu pour sa très grande intelligence et tuant deux de ses officiers dans le film précédent parce qu'il les trouve pas assez efficaces. L'arrivée de l'empereur demeure une scène mémorable, illustrant visuellement et musicalement la puissance impériale. Le film clôt alors la saga avec des réjouissances célébrant l'harmonie finale où tous les personnages ont résolu leur conflit. Le Retour du Jedi n'est par ailleurs pas le seul film de la saga à intégrer plusieurs formules disneyennes bien avant le rachat de Lucasfilm par Disney. La menace fantôme en abuse et rarement en bien. The Last Jedi dialogue de façon active avec les éléments des Star Wars qui l'ont précédé. Cette saga est vaste. En plus des films, d'autres médiums permettent d'approfondir les personnages et leurs histoires. La première image illustre l'univers construit à travers la trilogie originale qui constitue la base de la saga. Ensuite vient la prélogie où est élaborée la relation entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker qui va devenir Darth Vader. La deuxième image montre bien comment cette nouvelle trilogie étant la première. La troisième image expose comment l'univers ne cesse de s'étendre à partir de l'errance initiale de deux droïdes sur une planète désertique qui vont rencontrer un fermier de la lignée des Skywalker. Mais l'analyse des différentes trilogies ne peut venir qu'à posteriori, la sortie de chaque nouvel épisode à partir d'un nouvel espoir, qui constitue par ailleurs le deuxième plus grand succès au box-office de l'histoire du cinéma en tenant compte de l'inflation, est abondamment commenté de manière à observer comment il s'intègre au film précédent. J'ai déjà évoqué plusieurs caractéristiques du sixième épisode, la réception de l'Empire contre-attaque. La suite de Nouvel Espoir est autrement intéressant. Alors que l'épisode 5 est le film le moins apprécié de la trilogie originale au moment de sa sortie, considéré trop sombre, trop dur envers ses héros, il est pratiquement toujours considéré aujourd'hui comme le meilleur épisode de la saga, offrant une habile variation du premier film en développant ses personnages. Ce qui m'amène à vous présenter le schéma d'un fan. Si je n'adhère pas au qualificatif utilisé, je suis assez d'accord avec son positionnement des différents films. On peut assurément reprocher au septième épisode de reprendre la structure narrative d'Un Nouvel Espoir. On a le début sur une planète désertique du héros ou l'héroïne orphelin. Ensuite, la fuite à bord du Faucon Millennium, la mort de la figure incarnant le passé et là, finalement la destruction de l'arme ennemie toujours surpuissante. Et dans The Last Jedi, on est quelque peu surpris de la réponse après 2 ans d'attente. Je rappelle que la Force Awakens s'achève avec Rey se tenant devant Luke Skywalker que la Résistance tente de retrouver pendant tout le film, lui tendant son ancien sabre laser, qui est également celui de son père Anakin. Luke saisit l'arme et la lance au loin. D'emblée, le réalisateur se positionne face aux reliques de la saga en jouant avec la réaction des fans. Cela ne signifie pourtant pas une rupture avec la tradition de Star Wars. Ne serait-ce que dans les scènes entre Luke et Rey, on retrouve son X-Wing immergé dans l'eau, comme sur Dagobah, et que la Force permettrait de faire ressurgir le parcours que doit suivre l'apprenti comme métaphore de sa persévérance, le questionnement initial quant à sa motivation, la magnifique scène de la caverne avec le question du miroitement, cette idée que c'est soi-même qu'on affronte et ses propres sentiments, sa propre détermination. Ce sont tous des éléments qui font partie de l'entraînement de Luke par Yoda dans l'épisode 5. Le passé étant évoqué qu'on est à peine surpris de voir surgir le fantôme de Yoda et proférer sa sagesse éternelle. Ce qui compte n'est assurément pas les livres fondateurs des Jedi, qui contiennent des textes passés, déjà connus, un peu à la manière des encyclopédies des fans de la saga qui tentent de rassembler tout le savoir sur l'univers. C'est bien davantage l'esprit de la saga qu'on retrouve à travers les personnages et leurs réactions face à de nouvelles situations désespérées. Ce sont eux les porteurs des idéaux de la franchise. The Last Jedi éprouve ses héros, exposant la faillibilité de chaque membre du nouveau trio héroïque en retravaillant des caractéristiques du trio original. L'assurance extrême de Han devient de l'arrogance et se manifeste par un comportement toxique chez Poe. Il va par exemple expliquer son travail à Leia. Quand on lance une attaque, il faut la mener jusqu'au bout, qui lui rétorque qu'il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre en sautant dans un X-Wing. Cette réplique vient critiquer la simplicité de certains schémas narratifs qui, dans les récits, à la longue, pour en avoir lu des dizaines de livres de l'univers étendu, peuvent devenir aisément critiquables, soit l'improvisation miraculeuse des héros devant des situations hautement périlleuses. L'amiral Holdo, qui remplace Leia inconsciente, lui dit « J'espère que vous savez ce que vous faites » quand Poe se mutine avec quelques amis pilotes. C'est la même phrase que Leia dit à Han lorsque celui-ci s'enfonce à l'intérieur du champ d'astéroïdes dans l'épisode 5. Celui-ci répond « Alors, oui, moi aussi ». Outre l'humour associé au personnage, la réplique dénote aussi son incertitude manifeste qui semble manquer à Poe. La mission dans laquelle se lancent Finn et Rose, deux autres membres de la Résistance, comprend une pléthore de variables indéfinies. En se posant sur la planète Casino, hautement sécurisée, ils laissent leur vaisseau sur le moyen de repartir dans une zone interdite. Ils doivent recruter un hacker exceptionnel en n'ayant rien à lui offrir, excepté l'argument que ça aiderait la Résistance, qui sont les bons, et qu'il deviendrait donc lui-même un bon. Finalement, ils recrutent un hacker louche dans la prison où ils atterrissent après que leur vaisseau a été découvert. Ce hacker devant pirater le meilleur système de sécurité du premier ordre. Finn et Rose semblent toujours sur le point de frapper un mur lorsque la chance leur sourit. Finalement, elles tournent dans le vaisseau principal du premier ordre. Ils sont capturés et le hacker, qui a écouté Poe, Finn et Rose parler, dévoile le plan de l'amiral Ludo, c'est-à-dire de faire fuir la résistance à bord de petits vaisseaux invisibles au premier ordre. Survient alors l'une des scènes les plus éprouvantes de la saga, où sont canardés un à un les vaisseaux de transport, ne disposant même pas de boucliers et contenant tous les membres de la Résistance, uniquement parce que Poe a remis en question les capacités de l'amiral Holdo à commander, alors qu'elle a pourtant un plan fonctionnel en proposant le sien hautement problématique. Un article indique d'ailleurs que le véritable opposant du film serait la masculinité toxique. Chez Finn, on retrouve l'égoïsme de Han. Il tente en effet de fuir la Résistance lorsque la situation semble pour le moins alarmante en début de film. Lorsque Rose, qui admirait pourtant sa désertion du premier ordre, le remet en question, il déclare qu'il doit aller prévenir Rey de manière à justifier sa propre lâcheté. En arrivant sur la planète Casino, il trouve l'endroit génial, pensant à son propre plaisir et au profit potentiel. Rose lui dit alors d'ouvrir les yeux, comme Luke le fait dans l'épisode 4 avec Anne. « Serre-toi de tes yeux, on est à 1-100, ce serait un atout, un pilote comme toi, et tu nous laisses tomber. » Avec Rey, on retrouve la candeur de Luke, ce qui est d'autant plus amusant que c'est lui qui doit la former, la confronter. Quand il lui demande par exemple « Qu'est-ce que tu sais de la Force? » Elle dit que c'est un pouvoir qu'ont les Jedi qui leur permet de manipuler autrui et de faire flotter les objets. Il lui répond que c'est impressionnant. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans cette phrase. Il va réutiliser d'ailleurs la même réplique avec son ancien élève Kylo Ren à la fin du film. Avant d'aborder mon personnage préféré de cette trilogie, je vais mentionner un cas de transmission positive de Leia à Holdo. On retrouve la force, le courage, la foi, l'abnégation, la fermeté, l'empathie et beaucoup d'autres qualités de Leia en Holdo. Peut-être simplement parce que Leia était auprès d'elle pour lui enseigner ces choses, tandis que les deux hommes ont fui leurs responsabilités, incarnés chez Han par les chasseurs de primes, chez Luke par Ben Solo, alias Kylo Ren. Dans l'épisode 7, Kylo Ren veut poursuivre l'œuvre de son grand-père, Darth Vader. Il revêt même un casque, alors que lui n'a aucun problème de respiration, contrairement à Darth Vader, qui tombe dans la lave et qui est quelque peu abîmé. Cela fait dire à Snoke, le nouvel empereur, au début de Last Jedi, « Tu n'es qu'un enfant avec un masque. » Kylo Ren fait alors une nouvelle petite crise, comme dans l'épisode 17, et fracasse cette fois le casque iconique dans un ascenseur. À travers la posture nihiliste qu'il développe, il tente d'échapper au principe de binarité régissant son univers diégétique et s'illustrant par la force. La nécessité des ténèbres pour voir la lumière, tout l'aspect visuel du film travaillant énormément cette tension entre lumière et noirceur. Il tient absolument à abolir le manichéisme des Jedi et des Sith, même si cela doit l'entraîner définitivement du côté obscur. Toutes ces vieilles choses doivent s'éteindre, Snoke, Skywalker, les Sith, les Jedi, la rébellion, qu'ils meurent tous. En proposant à Rey d'instaurer un nouvel ordre dans la galaxie, il se retrouve à prendre le chemin le plus facile, le plus séduisant, de manière tellement plus convaincante qu'Anakin dans Star Wars épisode 3. J'étais vraiment tellement réjoui, se rapprochant ainsi plus que jamais de Darth Vader. Ce dernier propose à son fils Luke de s'unir à lui pour gouverner la galaxie dans la scène la plus mythique de la saga. Ce qui importe dans ce film est bien davantage l'enseignement d'un mentor, qu'il s'agisse d'un exemple ou d'un contre-exemple, que les liens généalogiques ou les reliques du passé. Survient d'ailleurs, en même temps, l'implosion du sabre laser bleu de Skywalker que tente d'obtenir à la fois Rey et Kylo Ren et l'héroïque sacrifice explosif d'Holdo, tandis que les vaisseaux de la Résistance sont canardés, donnant lieu probablement au plus beau plan du film. Ce qui compte autant dans les récits que pour la franchise, c'est l'émergence de grandes figures, de leaders, dont Luke et Leia continuent de constituer des exemples. Luke est le maître Jedi, une légende, comme le souligne Rey enthousiaste. Sa seule présence est capable d'arrêter une armée, rappelant un certain docteur. Luke s'est, malgré tout, exilé après son échec avec Ben Solo, qui devient Kylo Ren par sa faute. Voyant la puissance de l'enfant et le danger qu'il représente, imagine un bref moment l'éliminer pour éviter qu'il ne puisse devenir un nouveau Vador, se laissant séduire un instant par le côté obscur et son chemin le plus court. L'enfant, apercevant son maître, qui semble prêt à le tuer, en reste quelque peu traumatisé. Il est vrai qu'on est assez loin du Luke de l'univers étendu qui dirige son école à la manière de Charles Xavier dans les X-Men et qui n'intervient que lors des crises majeures. Pourtant, Luke a toujours été impulsif, échouant d'ailleurs son propre test dans la grotte. Il passe très proche de succomber au côté obscur dans le retour de Jedi lorsque, craignant pour sa sœur, il se laisse gagner par la peur qui se transforme en colère. Il attaque alors avec toute sa rage Darth Vader au plus grand plaisir de l'Empereur. C'est seulement en voyant la main coupée de celui-ci, robotique comme la sienne, qu'il voit l'aspect cyclique de la situation. Il est en train de basculer, comme son père avant lui, du côté obscur, et qu'il parvient à renverser le processus, préférant alors se désarmer devant l'Empereur que de combattre et de risquer de succomber à nouveau. Dans la trilogie de bande dessinée Dark Empire, sortie de 91 à 95, Luke bascule d'ailleurs un moment complètement du côté obscur. Il s'agit probablement de l'histoire en bande dessinée la plus importante de la saga, citée aux côtés de la menace qu'a représentée Thrawn en début de la trilogie L'Académie Jedi et constituant également le dernier tableau de jeu vidéo Oxradon. Des moments lient d'ailleurs Luke à ses deux maîtres légendaires, Kenobi, dont le retour est demandé malgré son échec passé. R2-D2 lui remonte le message de Leia à Kenobi de l'épisode 4 pour essayer de le faire réagir. Et Yoda, dans la mesure où, malgré ses réticences, il commence la formation de Rey. Par contre, il faut parvenir à dépasser la légende pour retrouver le personnage. Kenobi est rendu trop vieux pour faire la guerre, selon son propre aveu, quand il rencontre Luke, et lorsque, dans épisode 6, Luke déclare à un Yoda faible, vieux et malade, « Maître Yoda, tu ne peux pas mourir », ce dernier ricane. Le fantôme de Yoda insiste sur l'importance d'une transmission complète et honnête, reflétant donc la puissance et la maîtrise du maître, mais aussi la faiblesse, les folies, les échecs, oui, l'échec surtout. D'ailleurs, tout l'enseignement de Luke à Rey met en scène cet échec à travers les trois leçons. Dans le premier, il y a cet échec-là à bien comprendre c'est quoi la force et que c'est à tout le monde. Ensuite, l'échec de l'enseignement des Jedi qui l'ont précédé. Et finalement, le sien propre lorsqu'il a essayé de tuer Kylo Ren. La sagesse de Maître Yoda s'applique également à nos franchises. Le fait de reconnaître les échecs passés permet d'aboutir aux changements nécessaires. Les personnages féminins sont quasiment inexistants dans la trilogie originale, hormis Leia, et restent très rares dans la trilogie, hormis Padmé. De nombreux personnages masculins ont des comportements toxiques. Et c'est quand même très chouette de voir que dans les trois plus grandes séries de science-fiction, en ce moment, les trois personnages sont féminins. Je parle de Doctor Who, de Star Trek et de Star Wars. Il y a quand même eu énormément de changements qui se sont faits depuis la fondation des sagas. La résistance même de Johnson au sein de certains codes de la franchise permet d'enrichir son univers sans en altérer les lois ou la philosophie. Le réalisateur poursuit l'expansion de la saga avec, outre de nouveaux mondes et de nouvelles technologies, un nouveau regard sur la force dont l'équilibre transcende le temps et l'espace. Luke termine ainsi son cycle en revoyant les deux soleils de sa planète natale après s'être projeté devant Kylo Ren de manière à éprouver sa colère et permettre aux rebelles de fuir. Le film expose comment les personnages et les fans doivent négocier avec leur passé qu'il leur faut accepter pour parvenir à le dépasser. Ce qui n'empêche nullement le film de multiplier les références à la saga. En produisant une œuvre personnelle qui porte un nouvel éclairage sur Star Wars, le réalisateur teste l'élasticité de ses codes et la flexibilité du public, avec des personnages questionnant ouvertement la structure de la série et l'action de ses héros intrépides. The Last Jedi permet aux spectateurs de repenser à l'ensemble de la saga et de quelle manière elle doit se continuer. Je vous remercie.